C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr et son cofondateur et ancien directeur du Monde, Jean-Marie Colombani. Bonsoir.
Oui, bonsoir
Jean-Marie.
Désolé.
Bonsoir. Pardon.
Nous sommes disciplinés.
Oui, mais
désolé.
C'est bien, soyons disciplinés.
Indisciplinés.
Donc, un 1er mai entre manif et discours politique, les syndicats demandent que le travail paie plus et réclament encore la retraite à 60 ans. Mélenchon hurle « Faisons tomber le gouvernement » et Marine Le Pen à Narbonne fait de la résistance. La députée RN s'accroche au bastingage et tient sous bonne garde son dauphin Jordan Bardella qui a des ardeurs pour 2027. Des ardeurs, Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez en ont aussi. Dans 15 jours, les deux hommes se départageront. Qui aura la présidence des Républicains? Le favori pour l'instant, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. On en parle avec Bruno Jeudy, directeur de la Tribune Dimanche. Bonjour.
Bonjour Roselyne.
Mon cher Bruno. Catherine Tricot, directrice de la revue Regard. Bonjour ma chère Catherine. Et merci d'être là. Et merci également, chère Carole, éditorialiste politique, d'être sur ce plateau. Et en fin d'émission, la chronique de Véronique Reissoult, la politique sur les réseaux. Alors Marine Le Pen, à nouveau sur scène à Narbonne pour le 1er mai. Elle ne compte pas se laisser oublier après sa condamnation. La semaine dernière, Jordan Bardella avait encore affirmé que si Marine Le Pen était empêchée, ce serait lui. Et elle a très vite rappliqué et répliqué. On l'écoute.
Je reste, et il reste aussi dans l'état d'esprit, que je serai la candidate à la présidentielle. Et accessoirement, nous avons la faiblesse de penser que je serai élue et qu'il deviendra donc mon Premier ministre. Voilà. Il est encore une fois également évident que si je passais demain sous un camion, eh bien, il serait très évidemment la personne qui aurait vocation à me remplacer.
Catherine Tricot, elle est en train de dire là, vous ne m'enterrerez pas.
Clairement.
Je suis là, je reste.
Clairement, je trouve ça assez étrange parce qu'elle sait très bien que quand même l'inéligibilité est hautement probable. Et donc là, elle est en train de barrer la route en le remettant une nouvelle fois en position de Premier ministre. Ça, c'est ça que je trouve le plus cruel dans ce sonore. C'est qu'elle le remet comme son collaborateur. Elle le redésigne comme son collaborateur, ce qui n'est quand même pas la meilleure manière de le préparer à être candidat à l'élection présidentielle. Donc je pense que ça veut dire pas forcément qu'elle pense qu'elle sera la candidate, mais en tout cas que Jordan Bardella n'est pas encore le candidat du Rassemblement national.
Jean-Marie, comment... Là, on voit, quand elle est arrivée sur scène à Narbonne, elle arrive toute seule. Elle n'arrive pas avec main dans la main avec Jordan Bardella. Elle vient toute seule. Comment va-t-elle faire avec ce calendrier judiciaire, donc avec un appel en juin 2026 et espérer encore tenir jusque-là en noyant le poisson en disant ce sera peut-être Bardella, c'est-à-dire qu'elle s'appuie sur Bardella si jamais elle tente quand même d'y aller en disant bah, au dernier moment Bardella ira, c'est ça le plan?
Honnêtement je ne sais pas, elle évoquait le camion tout à l'heure, le camion c'est l'inéligibilité, c'est
le drôle d'expression,
oui ouais. C'est une expression
non
bizarre.
Mais ça voulait dire plutôt si je disparais,
oui bien sûr,
si je meurs,
en même temps
en dehors de la mort rien ne peut me battre,
en même temps c'est la justice m'a tué ou m'a peut-être tué, donc et ça je ne sais pas si elle a intégré vraiment dans ses réflexions cette dimension-là. Ou est-ce qu'elle se paye de mots, ou est-ce qu'elle s'illusionne à nouveau? Parce qu'elle ne cesse à la tribune de proclamer son innocence. Ben, proclamer son innocence, non. C'est pas vraiment la meilleure façon de se défendre. Et elle continue, elle s'obstine de ce point de vue-là dans l'erreur. Mais donc je ne sais pas, peut-être Bruno le sait, mais je ne sais pas si elle a elle-même conscience du mur qui est devant elle, vraiment, et qui ferait qu'elle a plutôt intérêt à consolider Jordan Bardella plutôt qu'à l'affaiblir. Alors, quand elle prend la parole en public, comme ça, dans ce meeting à Narbonne, elle dit « Je serai là avec le soutien de Jordan Bardella ». Elle ne manque jamais une occasion de le mentionner.
Oui, mais toujours lui, un petit coup côté, derrière les oreilles, quand même.
Oui, et lui, de son côté, fait un discours qui est un discours plutôt de chef de parti, en haranguant les foules. Elle-même, dans son discours, ne dit pas grand-chose sur le fond. Hein. Elle dit simplement « Je suis là, je serai là avec vous, avec Jordan Bardella ». Mais sur le fond du discours, il n'y a pas vraiment grand-chose. Il y a plus de contenu presque chez Bardella, parce que Bardella dit « Nous serons le parti de nouvelles conquêtes sociales ». Ah, bon, lesquels ? Mais il ajoute aussitôt, mais nous priverons ceux qui ne sont pas français des aides sociales. Donc là, on reconnaît mieux le Rassemblement national. Mais voilà, donc, mystère. Est-ce qu'elle a vraiment compris ce qui s'est passé ? Est-ce qu'elle a vraiment compris l'importance
du jugement ? Oui, est-ce qu'il y a un déni, Bruno ?
Et le fond même du jugement qui ne laissait pas de doute. Pourquoi ? Parce qu'il y avait déjà eu la condamnation du MoDem sur les mêmes bases.
Moi, je suis assez surpris, en fait, par ce qui s'est passé aujourd'hui, ces dernières heures, parce que c'est vrai que depuis le petit pas qu'a fait, enfin, pas en tous les cas, les mots prononcés par Jordan Bardella ce week-end, dans un papier avec quelques citations aux Parisiens. Au passage, assez étrange, c'est le week-end où il est à Rome. Voilà, on ne sait pas trop ce qu'il fait, il ne sait pas où se mettre. Enfin bon, voilà. Et il fait cette annonce, hein, qu'il serait donc avec des mots très pesés, on le sent bien. Et son entourage lui-même laisse entendre que tout ça a été fait avec l'aval de Marine Le Pen. Et on a du mal à imaginer que ça en soit autrement. On a plutôt l'impression que souvent, comme c'est souvent dans le RN et un parti extrêmement vertical, où
c'est très opaque, en fait.
Voilà, les influences autour de Marine Le Pen, il y a autour de Marine Le Pen des gens qui n'aiment pas Jordan Bardella, et qui le disent jamais, mais nous, on peut en parler, ou en tout cas, ils en parlent moins, ils sont... Et il y a cette influence autour de Marine Le Pen, sans doute. Il y a ce réflexe que ce parti est d'abord un parti lepéniste, le père, la fille. Et la fille, elle est programmée pour aller jusqu'à la victoire, comme c'était écrit au-dessus d'elle aujourd'hui à Perpignan. Donc c'est plutôt ce jeu d'influence. Et peut-être aussi le fait que Bardella est entouré d'une équipe d'hommes autour de lui qui gouverne ce parti avec ces gens-là. Et c'est vrai qu'il y a quand même des gens, des personnalités maintenant dans le RN qui sont pas fans de Jordan Bardella. On peut citer Sébastien Chenu, Jean-Philippe Tanguy, Louis Alliot, sans compter les soutiens de Marine Le Pen très importants à Hénin Beaumont, qui eux ont depuis longtemps rompu avec Bardella. Et donc, on sent quand même dans le parti monter cette... Mais en tous les cas, elle ne lui rend pas service. Et le chemin de croix de Jordan Bardella commence. Et il va être long, parce que si c'est un pas en avant, deux pas en arrière, déjà qu'il y a un doute sur le fait qu'il soit prêt ou pas à une présidentielle, là, ce sera très compliqué.
Carole,
alors moi je serais moins sévère que Jean-Marie, parce que je pense que quand même Marine Le Pen est une vieille routière de la politique, même si effectivement on a eu l'impression qu'elle tombait de l'armoire au moment de sa condamnation et de l'exécution provisoire, voilà, c'est quand même une femme politique et je pense que elle sait très bien, comme le disait Catherine, qu'il y a très peu de probabilité qu'elle puisse se présenter. Donc moi, je crois qu'elle fait un peu semblant...
Changer de stratégie de défense,
peut-être.
Pour l'instant, elle ne veut pas faire.
Peut-être. Mais en tout cas, je pense qu'il y a une question aussi très humaine, finalement, de continuer d'exister dans la vie politique, de ne pas céder la place avant l'heure, parce que ça, c'est psychologiquement...
Oui, mais après l'heure, c'est plus l'heure, comme disait le...
Attendez, là, je vous parle, je pense qu'il y a un aspect psychologique là-dedans, aussi. Bon, ensuite, enfin, souvenez-vous, par exemple, moi, je me souviens, Villepin, qui avait été nommé, Dominique de Villepin, qui avait été nommé Premier ministre par Jacques Chirac. À un moment donné, Chirac a quand même considéré que Dominique de Villepin faisait un peu trop comme s'il était déjà hors d'état de nuire, si j'ose dire, et se poussait un peu trop du col. Et il a été remis à sa place. Bon, bah, là, elle fait un peu la même chose, c'est-à-dire, peut-être qu'il me succédera, mais pour l'instant, c'est toujours moi qui suis là. La question, c'est effectivement, d'abord, ça empêche Bardella de se préparer correctement. Est-ce qu'elle ira jusqu'à tuer le dauphin ? Si c'est le cas, c'est effectivement une sorte de suicide collectif du Rassemblement.
Parce que Jean-Marie Le Pen disait le destin des dauphins, c'est de s'échouer.
Oui. Moi, je pense qu'il y a toutes ces problématiques internes, de désaccords internes entre les personnes, mais aussi entre les lignes, à l'intérieur du Rassemblement national. Ils sont pas,
Il y
a un débat de ligne à l'intérieur du Rassemblement national. Donc ça, voilà, tous les noms que vous avez cités qui sont hostiles à Bardella ne sont pas sur la même orientation.
Oui, lui, il est plus libéral.
Voilà.
Il est libéral.
Voilà. Donc, il y a un problème de ligne. Mais il y a un deuxième problème, c'est que ce matin, France Inter faisait un reportage à l'inauguration de ce local, où on entendait que des vieux sympathisants, pas forcément... ultra vieux, mais des gens un peu âgés. Au-delà de 30 ans, voilà. Au-delà de 30 ans. Mais les moins de 30 ans, les jeunes qui soutiennent Bardella, et puis les plus âgés, les adultes...
Mmh. En gros, ceux qui utilisent TikTok et les autres.
Voilà, les autres il faut un peu d'expérience. On ne peut pas avoir quelqu'un qui, à 30 ans, n'a pas fait d'études, n'a pas travaillé, n'a pas eu d'enfant, n'a rien fait d'autre dans cette...
C'est d'autant plus vrai que Marine Le Pen, elle-même, dans une interview au Figaro, alors c'était avant qu'elle soit condamnée, donc avant le 31 mars, avait terminé dans une question où elle dit « Jordan Bardella aura 2032 aura 36 il aura 36 ans en gros c'est le moment où il serait peut-être prêt quoi
bah 2032 36 clairement elle est en dessous de Macron 36 il y avait quelqu'un qui disait ça d'ailleurs dans le reportage ce matin sur Inter qui disait mais enfin on a donné les clés à un homme de 30 ans qui avait pas assez d'expérience et on voit où ça nous a mis et la détestation d'Emmanuel Macron dans l'électorat
37 ouais.
Macron avait 37 ans.
Là, c'est le stagiaire. On met à l'Élysée le stagiaire de troisième.
Eh ben, oui, c'est ça. C'est juste. Il y a un problème véritablement au-delà du désaccord politique ou pas. Il y a un problème de crédibilité de mettre un homme de 30 ans à la tête d'un pays qui compte comme la France et qui.
De toute façon, elle ne le met pas. C'est les Français qui.
Mais les Français ne le feront pas.
Sur le plan de l'âge, c'est on a déjà donné.
Mais est-ce que là,
surtout que
l'arme nucléaire.
Tenir compte du contexte. Ben le contexte international n'appelle pas quelqu'un d'inexpérimenté.
Bien sûr.
C'est évident.
Donc, je pense que ça, c'est un vrai handicap et nécessairement, elle a ça en tête. Mais à ce moment-là, que se passe-t-il si elle est empêchée et que Jordan Bardella est réputé trop jeune ou trop inexpérimenté par les Français. Que devient le Rassemblement
national ? Mais là où l'entre déchiré.
Il y a Louis Alliot qui est là. Il est
là où l'argument ne tient pas de Marine Le Pen qui dit on m'empêche. C'est pas de la démocratie. Bardella sera pas empêché de toute façon. C'est pas le Rassemblement national c'est elle. Donc ça tient pas.
C'est sans doute ce qui rend Marine Le Pen maussade. Elle a à la fois il y a eu l'échec de son rassemblement place Vauban le 6 avril. Là, elle a cru qu'il y aurait du monde, elle a cru que dans l'opinion, il se passerait quelque chose. Il ne s'est rien passé, parce que les Français, au fond, la justice, elle a pris une décision qui a été approuvée, que les Français trouvent normale. Et surtout, il n'y a pas de problème, puisqu'eux-mêmes disent qu'ils ont un remplaçant. Où est le problème ? Où est le problème pour les Français ? S'ils veulent mettre Jordan Bardella, ils le mettent, tant mieux pour ceux qui le supportent. Et puis tous les autres Français, ils n'en ont que faire de cette histoire. Donc Marine Le Pen, sans doute qu'elle a de l'amertume, et d'autant plus... Peut-être qu'elle nourrit ça. Alors, c'est un avantage et peut-être un inconvénient. C'est que les sondages montrent que, globalement, c'est du place pour place entre Marine Le Pen et Jordan Bardella, ce qui est peut-être un avantage, mais ce qui aussi, pour Marine Le Pen, un peu... Ça fait pas vraiment une différence. Un ou deux points, quoi.
Ouais. Alors, je voudrais qu'on s'intéresse à Jean-Luc Mélenchon, qui était dans les rues aujourd'hui pour manifester pour ce 1er mai. Alors, lui veut tout balayer, non pas le trottoir, mais les gouvernements, le gouvernement. On l'écoute.
Quelque temps qu'il fasse, quel que soit le moment, au nom de notre dignité de républicain, au nom de notre dignité de citoyenne et de citoyen, il faut faire tomber ce gouvernement et le suivant.
C'est pas compliqué comme programme, Jean-Marie. Là-bas, c'est la révolution.
Le chaos. Alors, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde, parce que quelque temps auparavant, il y avait une interview de Jean-Luc Mélenchon sur BFM TV par Alain Duhamel. Et là, Jean-Luc Mélenchon prenait la pose de l'intellectuel c'est-à-dire du gars qui connaît l'histoire, il connaît l'histoire en effet, qui a réfléchi et qui nous rappelle que l'histoire de France est faite justement de convulsions, est faite de révolutions, que le mot révolution n'est pas interdit dans le vocabulaire politique français, au contraire, ainsi de suite. Et il théorise là-dessus et on se dit voilà quelqu'un de cultivé, d'intéressant et qui est apte à mener une formation politique. Et puis là,
oui, c'est
dans sa vérité.
Oui, le Mélenchon-Patelin brillant.
C'est plus Patelin du tout là, c'est la véhémence qui revient. Et la véhémence, il devrait le savoir pourtant, la véhémence de cette nature est porteuse de violence. Elle est porteuse, elle encourage la violence dans la société française. Donc c'est pourquoi il est devenu un repoussoir dans la vie publique. Un vrai repoussoir où il remplace d'ailleurs Marine Le Pen, il remplace les Le Penistes dans la façon dont les Français détestent X ou Y. Donc voilà, c'est cela Jean-Luc. En plus, il a un petit livre rouge à la main. Là, ça rappelle l'époque des maoïstes
qui
prenaient la parole qu'en fonction de ce que disait la pensée du président Mao. Là, c'est la pensée de Jean-Luc Mélenchon. Donc voilà, mais je pense qu'avec sa stratégie du chaos, il n'arrivera nulle part. Et il n'arrivera qu'à renforcer le rejet par les Français de la perspective qu'il pouvait représenter. Parce qu'à certains moments, quand on le voit, il y a une sorte de mimétisme avec les grands meetings de François Mitterrand. Il y a la gestuelle, il y a les mots, il y a parfois...
Les gestes, parfois.
Mais sauf que non, ça n'est plus du tout cela. Et jamais Mitterrand ne poussait les Français à la révolte comme il le fait lui-même.
À regard, Catherine, vous avez fait un sondage avec Harris Interactive, très intéressant. Vous avez fait le buzz cette semaine sur la présidentielle à gauche. On a retenu les deux principales configurations. L'hypothèse avec une gauche rassemblée, la gauche est présente au second tour. Je ne sais pas si on peut voir effectivement avec une gauche à 26%, donc 34% pour le Rassemblement national. Donc les deux forces en présence au second tour. La deuxième hypothèse, sans LFI, sans la France insoumise, la gauche est aussi présente, mais ric-rac, avec 20%. Alors, là où on pourrait contester le sondage, c'est qu'on ne sait pas, d'abord, l'eau passera sous les ponts, on n'y est pas, et surtout, on ne sait pas les personnalités qui seront engagées dans les matchs, dans le match. Mais vous en tirez quoi comme conclusion? Qu'en fait, la gauche peut se débarrasser, aller aujourd'hui de la France insoumise. Elle peut rouler seule.
Alors, plein de conclusions. La première, c'est que la totale des gauches n'est quand même pas très élevée. Ça, c'est la chose qui me paraît la plus frappante. 26%, c'est une illusion de penser que toute la gauche sera unie. Il n'y aura pas de candidature unique de Jean-Luc Mélenchon à Raphaël Glucksmann. Mais l'hypothèse que nous avons testée montre qu'il y a, parce qu'elle est articulée aussi à une question subsidiaire dans le sondage, il y a un désir de la part des électeurs de gauche d'unité. Ça, c'est très fort. 80% des électeurs de gauche disent « il faut que vous vous unissiez ». Donc, c'est ça que ça traduit, ça raconte cette histoire et ça raconte que la place de la France insoumise n'est pas absolument incontournable dans l'électorat de gauche. Une partie d'entre elles imagine que la gauche, ça peut exister sans la France insoumise. Mais, comme vous venez de le dire, Rosine, il y a quand même un biais, et je boucle avec les images que vous avez montrées, il y a un biais, c'est qu'on teste, parce qu'on n'a pas voulu mettre de nom, puisqu'on n'en avait pas. Pour quelqu'un. Il y a deux questions, c'est qui est capable de représenter de Raphaël Glucksmann à François Ruffin. Ça, c'est quand même un peu le mouton à cinq pattes. Et l'autre, on a mis la France insoumise, mais tout le monde sait bien que c'est Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise. Oui. Or, Jean-Luc Mélenchon, ça ne fait peut-être pas 8%. Ça veut dire qu'il va y avoir un match à l'intérieur de la gauche qui peut faire qu'au total, ce que veut Jean-Luc Mélenchon, ce que veut François Hollande, l'un et l'autre sont d'accord sur cette analyse. Il y a deux gauches, il faut que chacune ait son candidat. Et que donc, s'il y a une compétition entre les deux candidats, peut-être qu'ils peuvent s'annuler l'un l'autre. Donc là, ce que fait Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'à la fois, il entreprend sa stratégie de dédiabolisation en allant se faire adouber par Alain Duhamel sur l'antenne de BFM TV. Le sage Alain Duhamel lui reconnaît toutes les qualités intellectuelles, de pensée, de programmation, etc. Donc, c'est un débat d'un assez bon niveau. Et il est le sage de la politique française. Donc, il y a cet aspect-là. Mmh. Et puis, il y a le Jean-Luc Mélenchon qui harangue les foules, qui mobilise sa bande, ses amis, ses militants.
Son clan
je ne dirais pas son clan.
Mitterrand aurait dit sa faction.
Alors, je vous laisse ces mots-là. Ce que je veux dire, c'est que la France insoumise, c'est des militants. Et là, il est en train de les emmener parce qu'il a compris aussi ce sondage, montre que sa position n'est pas si incontournable et n'est pas si centrale que ça à gauche. Elle est un peu fragilisée.
Mais ce qu'on Carole, sait, c'est qu'il ne renoncera pas.
Ah non, il ne renoncera pas.
Il sera candidat.
Mais il est candidat pour gagner. Il se battra parce que ce qui est quand même le plus probable, c'est qu'en fait, il y aura, comme la dernière fois, une espèce de primaire sauvage à gauche. Monsieur. C'est-à-dire que celui qui sera en tête de la gauche rassemblera toutes les voix. Donc lui, il veut battre l'autre candidat qui serait de François Ruffin à Raphaël Glucksmann si Olivier Faure a raison.
Carole, est-ce qu'il n'y a pas inversement, enfin pas inversement, mais enfin à chaque bout de l'échiquier politique des deux radicalités, cette espèce de stratégie alors de la cravate pour le Rassemblement national et la stratégie du Mr Hyde, Dr Jekyll et Mr Hyde, avec un Mélenchon qui sait se faire effectivement patelin et total, ça dépend à qui il parle en quelque sorte.
Oui.
Voilà, il y a quand même le théâtre d'ombre de la politique et des personnalités.
Ça fait un moment que ça dure. Enfin, Jean-Marie l'a très bien dit. Il est pour la stratégie du chaos, la révolution, du pouvoir de la rue. Il voudra faire tomber autant que possible tous les gouvernement. Donc, honnêtement, Mélenchon est sur un créneau qui ne bouge pas tellement, en fait, depuis maintenant quelques années. Et il continue parce qu'il pense qu'il est toujours le meilleur, effectivement, pour incarner la gauche, qu'il est un excellent tribun, qu'il y en a franchement pas beaucoup d'autres. Donc, c'est vrai que les chiffres, et Catherine a raison de souligner que dans l'hypothèse 2 que vous montriez tout à l'heure, où la France insoumise se présenterait seule, et là, 8, crédité de 8%, on peut penser que si c'est Jean-Luc Mélenchon, il fait plus. Et effectivement, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est quand même dans l'hypothèse 3, quand la France insoumise est avec les communistes, les écolos, et que de l'autre côté, vous avez le Parti socialiste et Place publique, c'est 16-13. C'est pas si loin. C'est pas si loin. Ouais. Alors, on peut effectivement appliquer le même raisonnement que ce que je viens de dire, c'est-à-dire que là, c'est LFI. Et s'il y a Mélenchon, peut-être que ce sera plus que 16. Mais je trouve que là, l'écart est quand même extrêmement faible. Bon, et puis sinon, c'est vrai que ce sondage est intéressant surtout sur la gauche, mais honnêtement, ce qui est en face... ça me laisse un tout petit peu dubitatif parce que franchement mettre Renaissance, Horizon, Modem ensemble alors qu'on sait que Attal et Édouard Philippe
il
y aura un candidat du bloc central et il y aura pas de division du bloc central. François Bayrou déjà dit en privé qu'il sera pas candidat.
Non, lui
déjà,
ne sera pas candidat. Mais il reste Attal et Édouard Philippe.
Gabriel Attal, ça va. Je pense que ça ne durera pas très très longtemps. Et surtout, il y a quand même une différence, parce que ce sondage met le candidat du Bloc central, mais quand vous regardez les hypothèses avec Édouard Philippe ou Gabriel Attal, il y a quand même 3-4 points d'écart. Hein, et la campagne n'a pas commencé. Moi, je trouve très intéressant ce sondage pour une raison, c'est qu'au fond, ce n'est pas tellement Mélenchon, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Mélenchon, il sait faire campagne, c'est un des meilleurs, on le sait, et on voit bien ce qu'il va faire. Il est déjà en train de commencer à mettre en place cette stratégie à la fois révolutionnaire et en même temps il sait redevenir sénateur socialiste, bourgeois socialiste quand il faut. Non, ce qui est intéressant, c'est, j'allais dire, la balle est dans le camp des non-éléphistes. Et c'est ça, et c'est là que c'est intéressant ce sondage. C'est qu'il y a une possibilité. Et il faudra bien qu'entre eux, ils en discutent, qu'ils trouvent les moyens, l'endroit pour en discuter, le cadre idéologique dans lequel ils veulent discuter. Qui peut être le mieux placé et donc il y aura des décisions à prendre. Ils ne peuvent pas refaire et 2017 et 2022. Ils savent que c'est, ça va dans le mur direct et c'est de pire en pire. Parce que la dernière fois, je vous rappelle le score d'Anne Hidalgo, 1,7%. Et franchement, et les autres, Roussel, il croit qu'il va faire, qu'il va tout casser, il ne cassera rien du tout. C'est juste le candidat préféré des médias de droite parce qu'évidemment, c'est le communiste qu'on aime bien. Quant à Marine Tondelier, la bonne blague.
Ça, elle habite donc, où elle est côté LFI ou côté...
Je crois qu'elle ne sait pas trop où elle habite, mais ça ne marchera pas. Donc la vraie question, c'est ça. Elle est là, la question. Et la question, elle est, les non-LFI, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent se réunir ou ils veulent laisser le tapis à Mélenchon? Alors, la balle est dans leur camp.
Je vais compléter, je suis totalement d'accord que c'est ça l'enjeu. La difficulté, c'est que le cœur de la gauche n'est pas du côté du bis repetita de la gauche hollandaise. Pour aller vite.
Oui,
donc il faut un point d'accord qui soit une gauche plus à gauche. Mais la gauche plus à gauche, il faut savoir la construire, et elle ne peut pas représenter la même chose en plus gentil que Jean-Luc Mélenchon, parce que sans ça, les électeurs, ils préféreront l'original à la copie. Ben oui. Donc, il faut être capable d'être vraiment à gauche, mais vraiment différent de Jean-Luc Mélenchon. Parce que sans ça, si c'est Jean-Luc Mélenchon et une pâle copie de Jean-Luc Mélenchon sympathique, genre François Ruffin...
Moi, je trouve qu'il y a deux personnages. Il y a deux personnages
nouveaux.
François
Ruffin se fait battre par... François Ruffin, s'il est le décalque de Mélenchon,
il joue le Mélenchon plus gentil. Mais il faut
qu'on... Il peut être autre chose.
Mais il faut reconnaître, Catherine, qu'il y a deux personnages qui sont apparus, là, ces dernières années. C'est Raphaël Glucksmann dans son genre, qui plutôt des sondages intéressants, sait-il faire une campagne nationale ?
C'est pas sûr.
Oui, il est plus sur l'international.
Voilà.
Est-il capable de sortir de l'international ? Il y a plein de questions. Ouais. Et puis quand même, d'une certaine manière, François Ruffin, il renouvelle un peu le discours. Oui. Il essaie de réfléchir aussi à la ruralité, aux classes populaires. Il est élu lui-même dans un territoire extrêmement difficile où il y a que des il y a quand même que des députés RN dans la Somme.
Il est le seul à
s'en sortir. Donc il y a quand même un bout de recette là.
Est-ce qu'on imagine les gens du Parti Socialiste
voter pour Ruffin
et de Place Publique se ranger derrière
Ruffin, tous les cas, ils devront avoir ce débat.
Oui, c'est le problème. Le problème, c'est que si c'est Raphaël Glucksmann, moi, je pense que la gauche, le point d'équilibre de la gauche n'est pas du côté de Raphaël Glucksmann.
Mais je suis d'accord.
Voilà. C'est très compliqué.
C'est une affaire très compliquée pour la gauche.
Encore une fois.
Mais je suis d'accord. Ils devront s'entendre.
Jean-Marie.
Le débat est là.
Oui, mais
on a différents modèles dans le monde. Le modèle libéral qu'on est en train de voir avec Trump, avec en Hongrie, enfin dans beaucoup de pays aussi européens. Le modèle d'une gauche qui marche aujourd'hui et qui a le vent en poupe, c'est quoi ? Vous dites c'est l'Espagne ?
Il y a l'Espagne, il y a le Portugal, il y a aussi...
Les pays scandinaves.
Et l'Angleterre, les travaillistes qui sont au pouvoir.
Donc la recette, qu'est-ce qui marche ?
Parce que quand on parle d'une gauche, c'est pas une gauche radicale. Non, mais le problème est éternel en France, c'est-à-dire qu'un certain nombre de gens, comme notre camarade Catherine, considèrent que n'est à gauche que ce qui est excessif, au fond.
C'est sympathique, merci pour la définition. Elle est objective, en plus, comme définition. Mais oui.
C'est-à-dire que c'est tout le problème. La gauche, longtemps, n'était réputée de gauche que quelqu'un qui était adoubé par le Parti communiste, au fond.
Oui.
Le point de repère. François Mitterrand les a libérés de cela, en assumant une gauche de gouvernement. Et puis, aussitôt la parenthèse refermée, on est revenu vers... Et maintenant, c'est pire que tout.
Parce que la gauche n'est de gauche que celui qui est adoubé
par le trotskisme, par les trotskistes de Jean-Luc Mélenchon. Mais non, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Il suffit d'ailleurs de reprendre la liste des conquêtes sociales et de voir en face qu'est-ce qu'ont apporté les uns et les autres. Et vous regarderez, d'ailleurs, que ce soit le Front populaire, que ce soit à la Libération, que ce soit avec François Mitterrand, qu'est-ce qu'a apporté la gauche de gouvernement ?
Bon, la sécurité sociale, quand même. On va quand même dire ça. Allez.
Qu'ont apporté les gauches ?
C'est pas si mal. Les nationalisations aussi. Voilà.
Qu'ont apporté les gauches dont vous pensez qu'elles sont la vraie gauche ? Rien.
Mais si, là, c'est ce que je viens de dire. Le Parti communiste était porteur du projet de sécurité sociale, et c'est d'ailleurs un ministre communiste qui l'a mis en œuvre.
Oui, d'accord.
Non, mais si tout ce qu'ils ont fait ne compte pas, évidemment.
C'est pas le Parti communiste qui a fait la sécurité sociale.
Ah bon, d'accord.
Les penseurs de la sécurité sociale sont en Angleterre, ce sont les penseurs travaillistes. Bon. C'est Lord Beveridge et les autres qui ont influencé toute l'Europe.
Les
gouvernements de l'époque qui prennent ces décisions, c'est des gouvernements. Il y a des socialistes, il y a des chrétiens démocrates.
Dans le gouvernement de Libération, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que les partis communistes, le Parti communiste ne comptait pas pour rien, puisqu'il était le premier parti de France, et il en avait le ministère, et il l'a inventé, il l'a donné des formes. Ceci étant, on s'en fiche. C'est pas tellement ça le sujet. Le problème à l'inverse,
le
problème aujourd'hui, c'est que la panne de proposition social-démocrate, elle est réelle.
Ce que je veux dire, c'est qu'on peut toujours dire que les trotskistes ne servent à rien, mais on peut aussi dire que les socialistes ne servent pas à grand chose non plus. Donc
la gauche est dans les choux.
Notre discussion le prouve, quoi. Et les chiffres, et Catherine remarquait elle-même.
Les grandes idées,
le total des voix de gauche, franchement, 20%.
Bien sûr, aujourd'hui, oui.
Donc, oui, moi, je pense que, oui, mais les grands, ils vont encore passer leur tour.
Non, les grandes idées ne meurent pas. Les grandes idées ne meurent pas.
Je prends mes risques. Je prends mes risques.
La gauche a un espace.
C'est pas sûr parce que, d'abord, il y a quand même la donne du Rassemblement National dont personne ne sait aujourd'hui qui sera le candidat. Et donc, il y a quand même un point d'interrogation. Et donc, il y a une possibilité que ça va aiguiser les appétits sur le Bloc central, LR, Philippe, on verra. Et donc, tout ça ne va pas plaider pour, j'allais dire, des candidatures uniques.
Non, oui,
donc
c'est clair.
Ça peut s'émietter. Et du coup, on voit bien, les législatives, c'est quand même une surprise de voir que la gauche, alors, dans son ensemble, était quand même le premier bloc. Attention. Sur un premier tour un peu serré.
On l'a vu aux législatives. Aux législatives, qu'est-ce qui s'est passé ? La gauche est arrivée en tête. Donc, ça veut dire, en trois tiers, il y a trois tiers, donc elle n'avait pas la majorité.
La tripartition.
Donc, il ne faut pas enterrer la gauche. Et puis, encore une fois, je me répète, mais les grandes idées ne meurent pas. Donc, elle ressuscitera sous une forme qui vous surprendra sans doute, parce que vous ne la trouverez jamais assez à gauche, mais elle ressuscitera.
Et blanc.
Juste un truc quand même, Jean-Marie. Quand Jean-Marie dit que Mitterrand a libéré la gauche.
De la tutelle intellectuelle du communisme.
Il a minoré ad aeternam. Sauf qu'il s'est quand même fait élire avec eux, et que pour se faire élire, il a eu besoin d'eux.
Programme commun, oui.
Et que depuis, au fond, les socialistes pensent que c'est toujours le modèle qui vaut.
Oui.
Mais de fait.
Pour parvenir au pouvoir.
Mais parce que de fait, la gauche en France, elle a deux jambes qui sont plus ou moins fortes l'une l'autre. Mais il y a une jambe un peu plus radicale et une jambe un peu plus.
Ce qui reste vrai, c'est que l'électorat, les sympathisants de gauche, ceux qui se reconnaissent dans la gauche ou veulent se reconnaître dans la gauche, sont irrémédiablement attaché à l'unité. Ça, vous avez tout à fait raison. À l'union. L'union, c'est un levier extraordinaire. Donc, il faut faire avec ça.
Est-ce que la gauche a rompu avec le marxisme ? Est-ce qu'elle a fait ce que les Allemands appelaient le Bad Godesberg ? Ils ont rompu avec le marxisme à la fin des années 50.
Éternel débat. On voit bien qu'Olivier Faure, il est quand même toujours tenté de regarder un peu vers LFI. Il s'est fait un peu tordre le bras par François Hollande et les différents courants à l'intérieur du parti. Non, la gauche française n'a pas eu la même évolution social-démocrate que la gauche allemande, la gauche anglaise, la gauche scandinave.
La gauche, ça ne peut pas être le Parti socialiste. Le Parti socialiste, moi, je crois qu'en 2014, le tournant qu'a opéré François Hollande en prenant le parti de la politique de l'offre, c'est un tournant idéologique extrêmement puissant. Ouais. Donc, le Parti socialiste, je pense qu'il a beaucoup bougé. Alors, mais le reste de la gauche, le Parti socialiste, ce n'est pas toute la gauche. La gauche française, elle est bipolaire.
Ça nécessite des soins.
Ça fait de la dynamique de pôle.
La maladie. Tout de suite, Véronique Reissoult nous rejoint pour la politique sur les réseaux. Pas de générique. Pas de générique, c'est pas grave. Hop là.
Voilà.
On fait comme s'il y en avait un. Ma chère Véronique, comment allez-vous ?
Bonjour.
Alors, on va parler des 100 jours de Donald Trump. Hein, on en a parlé hier longuement sur France 24 et ailleurs.
Ouais.
Parmi toutes les actions, lesquelles ont marqué, ont été les plus marquées ?
Et surtout les plus commentées. Pardon.
Les Français, ça irait mieux.
Et donc, j'étais regarder les volumes attachés à leur Trump. Et au centre de toutes les conversations depuis 100 jours, donc je ne sais pas, vous regardez tout ce qui s'est dit sur l'ensemble de ces 100 jours, mais j'étais regardée sur les différents éléments. Et bien en fait, le sujet qui a marqué l'ensemble du monde avec 70 millions de messages, c'est les droits de douane, et ce dans le monde entier, et ça c'est hors Chine. Le deuxième sujet, c'est Monsieur Vladimir Zelensky qui a été humilié, 45 millions de messages. Le troisième, c'est l'investiture qui a été commentée à hauteur de 30 millions de messages. Enfin, la nomination et l'action de Elon Musk, 28 millions de messages. La campagne d'expulsion de masse des migrants, 20 millions. Et Gaza, Moyen-Orient, enfin la Côte d'Azur du Moyen-Orient, 10 millions de messages et 38 millions de vues, parce qu'il y a eu des vidéos qui ont été énormément partagées, en particulier sur TikTok. Donc en gros,
Les gens sont traumatisés par les droits de douane.
Oui, et là, c'est pas que en France, hein, vous vous doutez, c'est dans l'ensemble du monde. C'est le sujet numéro un qui a préoccupé tout le monde. À l'image de ce message-là, qui est plus orientée évidemment sur l'Europe. En fait, les droits de douane et Trump ont mis l'Europe au dos du mur, mais a mis l'ensemble du monde au dos du mur, a forcé les uns et les autres à se poser des questions. Ce tweet faisait partie de ce qui illustrait assez bien la position, en tout cas en Europe, des uns et des autres, en disant qu'il va falloir quand même se souder, s'organiser et être à peu près carré. Et il y a un sondage, alors qui n'est pas aussi brillant que celui que Catherine a sorti, mais qui est un sondage qui permet de comparer ce que disent les Français et les Américains, qui est une étude IFOP qui est sortie le 26 avril. Et globalement, sur les droits de douane, on pourrait se dire que les Américains sont contents. On n'a que 49% des Américains qui sont contre, mais donc on va dire 50-50, on n'est pas loin. Évidemment, les Français, 72%. Globalement, on va dire que premier point où c'est pas si évident que ça. Deuxième sujet.
Ouais, enfin bon, quand même, moitié qui sont contre.
Ouais, la moitié qui sont contre.
Une position qui était défendue par le président américain pendant sa campagne.
Et qui était annoncée. Donc déjà, on voit que c'est compliqué. Vous vous rappelez, le deuxième sujet le plus commenté, c'était Zelensky. Et là, c'est encore plus intéressant. Dans ce sondage, on voit que 66% des Américains considèrent que leur pays doit continuer à soutenir l'Ukraine. Et bizarrement, les Français, 60%, les Français soutiennent moins leur pays sur ce sujet-là que les Américains, qui est quand même intéressant quand on voit la façon dont ça s'est passé. Donc on s'en doute, la cote d'approbation de Trump ne fait que chuter. Je pense que la courbe parle d'elle-même. Le premier chiffre est lors de son investiture, enfin en janvier, et voilà, il dégringole. Il est à 44% aujourd'hui, donc auprès des Américains. Donc là, on a quand même un sujet compliqué, et on est même en train d'arriver à quelque chose d'assez incroyable. Vous avez 56% des Américains qui ont honte de Donald Trump. Il y a une répartition entre oui, beaucoup, pas beaucoup, mais 56% des Américains qui ont honte de Donald Trump, on peut se dire qu'on a un sujet. Et qu'il a un sujet. Alors dites-vous que sur les réseaux sociaux, il y a des mouvements qui s'organisent. Il y a un mouvement qui s'appelle Hands Off, qui est, voilà, il y a eu à peu près 1100 manifestations un peu partout aux États-Unis. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas de leader démocrate. C'est le peuple qui est en train de s'énerver. Les leaders démocrates essayent de parler, mais globalement sont assez absents. Et chacun, dans son état, a essayé de prendre la parole et de prendre une forme de lead qui n'existe pas. C'est pas du tout, ils ne sont pas suivis, quoi. Donc intéressant de voir que c'est le peuple qui est en train de s'énerver. Alors évidemment, qu'a fait M. Trump ? Eh bien, M. Trump, il s'est excité sur True Social, espace que bien évidemment vous connaissez chacun d'entre vous, qui est donc son réseau social à lui. Et sur son réseau social, eh bien, il partage des informations aussi magnifiques que celles qu'il a partagées dans sa conférence hier, où il donne ses vérités alternatives. Mais normalement, sur ce réseau, ce sont ses fans, ce sont ses électeurs, et lorsqu'il dit quoi que ce soit sur ce réseau, il est suivi. Eh bien, regardez ce que ça donne aujourd'hui, malgré le mal qu'il se donne sur True Social. Je vous ai pas tout pris, je vous ai juste mis cette image. Mais voilà, vous avez 24% des électeurs de Trump aujourd'hui qui regrettent leur vote. Donc, on est dans quelque chose qui commence à être quand même un petit peu compliqué et qui peut expliquer que finalement, il y aura peut-être des petits retours sur ces annonces tonitruantes et ces décrets pris par
Trump. Il a déjà commencé.
Oui.
Il est déjà revenu sur les droits de douane. Voilà. Il dit qu'il se fait peut-être balader par Poutine. Enfin, en 100 jours, il a fait déjà l'essuie-glace sur plusieurs sujets.
Pas sur tous.
Non, mais
c'est des grands sujets idéologiques qui restent campés sur une position d'extrême droite.
Il a juste été élu. C'est rare quand même de revenir sur des sujets quand même importants.
Mais j'entends bien sur l'économie. Je suis tout à fait d'accord que sur l'économie, il est en
lutte.
Sur la politique étrangère, entendons le voir. Je trouve que c'est quand même juste la honte ce qui vient de se passer hier soir. Si j'en comprends les termes,
les négociations entre l'Ukraine et les États-Unis.
Hein, pour l'instant.
Véronique, je vais vous poser une deuxième. Mais je voulais juste vous demander, parce que moi, mon oreillette ne marche pas. Est-ce que la vôtre marche ? Parce que
je ne sais pas à quelle heure prendre.
On vous dit rien ?
Dans une minute, on rentre.
Ah, bon. Alors, vous me faites stop, parce que moi, ça ne marche pas.
Alors, je vous la fais rapide.
Un nouveau
alors.
Président improbable.
Bah oui, en France. On parle en France.
En France, oui.
Une annonce qui a un petit peu agité le web, au point où il y a un sondage qui a fini par être commandé.
Cyril Hanouna.
Mais oui, regardez,
il faut de l'argent à dépenser.
Regardez comme il est beau, cette magnifique infographie. Alors évidemment, vous doutez que ce sondage n'était pas très positif
quand
pour
même
lui.
Le scoop foireux de la semaine.
Vraiment. Donc là, hop, on a eu les journalistes qui ont rappelé que Hanouna, donc dans ce sondage, se retrouvait même pas au niveau de Bigard en 2020. Donc voilà. Donc hop, on va le voir dans un instant. Et Hanouna a donc expliqué que c'était, figurez-vous, un ballon d'essai. Mais oui. Et alors son ballon d'essai, c'était pas pour être président, c'était pour vérifier qui étaient les traîtres dans son entourage. Donc moi je dis c'est beau.
Non, c'était
alors
de la
peut-être
publicité.
Qu'Agnès peut nous passer.
Ça s'appelle de la publicité. Comme son émission s'arrête, il a besoin de faire parler de lui. Et
exactement.
Il fait de la publicité.
Donc là, c'était pour dire 3%. Et je vous donne une autre image. Moi je me demande si c'est aussi pour tester si son entourage est fait de traîtres, puisque c'était dans les images qu'il y avait cette semaine, en disant bah, pourquoi pas possible, enfin, dire, président, oui. Pape, il sait faire plein de choses. Quoi.
Un homme de talent.
Quelle mouche a piqué Valeurs Actuelles, d'ailleurs ? Parce que le programme d'Hanouna est dans Valeurs Actuelles.
L'espoir de vendre quelques magazines de plus.
C'est ça.
Et Véronique, nous sommes le 1er mai.
Ben non, dans l'oreillette que vous n'avez pas, on me dit laisse tomber avec le 1er mai.
Ah,
alors
bon,
moi,
bah,
je vous souhaite
donc, plus rien, donc,
un joyeux 1er mai.
Merci.
Sans budget.
Et voilà. Tant pis. Merci d'avoir fait l'horloge, pardon. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.